Bon réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un collectif jugé islamiste doit être dissous ce matin au Conseil des ministres. Il est dirigé par l'un des 7 gardés à vue qui seront présentés aujourd'hui à un juge antiterroriste. Des personnes soupçonnées à chaque fois d'avoir aidé de près ou de loin le tueur de Samuel Paty, enseignant assassiné près de son collège vendredi à Conflans-Sainte-Honorine.
Et ce soir, un hommage national sera rendu au professeur. Il sera présidé par Emmanuel Macron. Dans la cour de la Sorbonne, il s'inscrit dans une tradition républicaine, vous l'entendrez.
Les contaminations au Covid-19 s'étendent encore au vu du nombre croissant de patients en réanimation. Dans ce journal, nous nous pencherons sur l'aide proposée aux professions libérales, notamment aux soignants. Une possible indemnité journalière dès le premier jour d'arrêt de travail.
Et puis dans cette édition également, nous irons au Nigeria, où la police a tiré sur 1 millier de manifestants hier soir. Il y a des morts et des blessés. Ils protestaient contre les violences policières et le pouvoir en place.
Direction enfin Cuba, car l'île rouvre ses frontières pour laisser passer les touristes. Ils risquent toutefois d'être encore peu nombreux en cette fin d'année. Reportage à La Havane dans moins d'un quart d'heure. C'est la première fois qu'Emmanuel Macron s'exprimait publiquement depuis l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty. Avant l'hommage qui sera rendu ce soir à la Sorbonne, le chef de l'État s'est rendu hier à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, pour une réunion de la cellule départementale anti-islamiste. Emmanuel Macron a promis des actes, dont le premier devrait se concrétiser ce matin au Conseil des ministres. Écoutez Emmanuel Macron.
Suite à l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine, nous allons renforcer encore ce qui était lancé. Nous savons ce qui est à faire, nous le savons. Et donc ce sont des actes qui sont attendus par nos concitoyens. Ces actes s'intensifieront. Vous avez vu ces derniers jours plusieurs dizaines d'actions concrètes lancées contre des associations. Dès demain au Conseil des ministres, nous aurons à dissoudre le groupement de faits Cheikh Yassine, directement impliqué dans l'attentat.
Bonjour Anne Fauquemberg.
Bonjour.
Qu'est-ce que ce collectif Cheikh Yassine qui souhaite dissoudre ce matin Emmanuel Macron ?
Eh bien, c'est un collectif qui instrumentalise le soutien au peuple palestinien à des fins prosélytes. Cheikh Yassine, du nom du fondateur du Hamas, tué par l'armée israélienne en 2004. Sur la page Facebook de ce collectif, on le voit, ce drapeau palestinien aux côtés de visages d'enfants pris visiblement dans des bombardements. Se relaient aussi des appels aux dons pour aider la bande de Gaza ou encore ce billet de blog qui explique qu'Israël est à l'origine de l'explosion du port de Beyrouth en août dernier. Abdelhakim Sefrioui fait partie de ces militants islamistes actifs depuis une vingtaine d'années en région parisienne. Il est apparu dans la sphère publique au début des années 2000, lorsque la France a légiféré sur le port des signes religieux ostentatoires à l'école, antisioniste. Proche de Dieudonné, après les émeutes urbaines de 2005, il se fait régulièrement repérer par les autorités. En 2010, par exemple, il avait mené une campagne de harcèlement contre l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi, un imam ouvert au dialogue avec les responsables religieux juifs et qui s'était déclaré favorable à une loi interdisant la burqa en France. En 2011, il organisait une prière de rue devant l'Assemblée nationale dans le cadre d'une mobilisation contre l'islamophobie. Et puis en juillet 2014, il avait scandé des slogans à la gloire du Hamas et du djihad lors d'une manifestation pro-Gaza. Enfin, dans l'affaire de l'enseignant assassiné vendredi dernier, il a notamment diffusé sur YouTube une vidéo dans laquelle il dénonçait le cours de Samuel Paty et le qualifiait de voyou.
Merci beaucoup Anne Fauquemberg. Et à propos d'Abdelhakim Sefrioui, chef donc de ce collectif Cheikh Yassine, Abdelhakim Sefrioui doit être présenté aujourd'hui à un juge antiterroriste, tout comme 6 autres personnes en vue d'une éventuelle mise en examen. Il y a notamment 2 collégiens suspectés d'avoir reçu de l'argent de la part du terroriste contre des informations sur le professeur. Il y a aussi un parent d'élève qui a lancé la mobilisation contre Samuel Paty sur les réseaux sociaux. Les enquêteurs ont retrouvé des messages échangés sur WhatsApp entre ce père de famille et le tueur quelques jours avant le meurtre. On n'en connaît pas encore le contenu. Voilà pour l'enquête et les actes forts promis par Emmanuel Macron. Le chef de l'État sera ce soir sans doute un peu plus solennel, moins guerrier en tout cas, pour évoquer Samuel Paty, mort pour avoir montré en classe des caricatures du prophète Mahomet. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour.
Hommage national ce soir, donc organisé à Paris dans la cour de la Sorbonne, que l'Élysée décrit comme le symbole du rayonnement culturel, littéraire et éducatif de la France.
Oui, le lieu a été soigneusement choisi lundi avec la famille.
amis de l'enseignant Samuel Paty, reçu par Emmanuel Macron. La Sorbonne, c'est à la fois un emblème de la France des Lumières, explique-t-on à l'Élysée, et un symbole qui parle au corps enseignant beaucoup plus que les Invalides. Car au-delà de l'hommage à Samuel Paty ce soir, c'est à l'ensemble des enseignants que s'adressera le chef de l'État. Il devrait évoquer le rôle essentiel qu'il joue dans l'enseignement des règles et des principes républicains. C'est sans doute ce qu'attend un grand nombre d'entre eux à travers cet hommage, que le chef de l'État leur rappelle leur rôle, leur place, le rouage essentiel qu'il représente. En tout cas, ce qu'exprimait hier soir cette conseillère principale d'éducation rencontrée par Yann Gallic lors de la marche blanche à Conflans-Sainte-Honorine, elle s'appelle Karine.
Je pense que beaucoup de personnels de l'éducation nationale ont besoin de se sentir soutenus et qu'effectivement, il y a une hiérarchie, qu'on n'est pas tout seul dans nos établissements, entre collègues, à essayer de chercher des solutions pour que ça fonctionne. Et donc l'hommage national, peut-être que la France va enfin se dire « on bouge ».
La cérémonie ce soir se déroulera à partir de 19h30. Emmanuel Macron devrait arriver un peu avant pour remettre la Légion d'honneur à titre posthume à l'enseignant. Ensuite, après l'arrivée du cercueil, un chant sera interprété par l'orchestre de la garde républicaine et par la maîtrise de Radio France. Il y aura aussi des textes lus par des élèves et des enseignants avant un bref discours du chef de l'État. Cette cérémonie se déroulera devant 400 personnes, dont une centaine d'élèves de l'Île-de-France. Tout ça relève d'un rituel extrêmement important, puisque c'est la nation tout entière et la République qui rendra hommage à l'un de ces hussards noirs, ainsi qu'on surnommait les instituteurs au début du XXe siècle.
Stéphane Robert, merci beaucoup. Avant donc cet hommage national prévu ce soir, cela ne signifiera peut-être pas l'unité nationale. Frédéric Saïs y reviendra après cette édition en évoquant l'opposition politique qui veut faire valoir ses positions sans raviver les divisions. Son billet politique, ce sera à 8h16. Outre la dissolution d'un collectif jugé islamiste ce matin en Conseil des ministres, notons aussi ce matin la présentation d'un projet de loi pour prolonger l'état d'urgence sanitaire face au nouveau coronavirus. Et ce, alors que les soignants dans les services de réanimation dans les hôpitaux voient arriver de plus en plus de malades du Covid-19 avec des complications. Ils sont près de 2200 ce matin. Un nombre qui va continuer d'augmenter dans les deux prochaines semaines, prévient le ministre de la Santé Olivier Véran, du fait du délai entre les contaminations et les complications. La situation est particulièrement tendue en Île-de-France qui concerne plus d'un quart des malades en réanimation en ce moment. Et pour faire face à cette deuxième vague de Covid-19 en France, Olivier Véran annonçait hier soir une rallonge budgétaire pour l'hôpital, près de 2,5 milliards d'euros en plus. Rallonge qui entre dans le cadre du projet de loi de finances de la Sécurité sociale qui est discuté en ce moment à l'Assemblée nationale. Un PLFSS pour 2021 amendé par le gouvernement pour cette première lecture dans l'hémicycle. Et sachez qu'il est notamment proposé d'élargir les indemnités maladie à toutes les professions libérales. Cela concerne 1 million de personnes. Cela va de soignants aux experts comptables, en passant par les kinésithérapeutes, les notaires ou les auto-entrepreneurs. Ils pourraient bénéficier d'une couverture journalière maladie dès le premier jour de l'arrêt de travail. Encore faut-il que toutes les professions se mettent d'accord sur les détails de ce financement, Adrien Toffolet.
Le dispositif doit avant tout répondre à un besoin de solidarité entre professions libérales. Aujourd'hui, seuls certains, comme les chirurgiens-dentistes ou les experts comptables, grâce à leur caisse de retraite, bénéficient d'indemnités journalières seulement au 90e jour d'arrêt maladie. Tous les autres, en revanche, sont livrés à eux-mêmes. Avec la crise du coronavirus, l'Union nationale des professions libérales a alerté le gouvernement sur leurs difficultés parce qu'ils étaient malades ou cas contact et donc sans revenus. Le dispositif instaure donc une indemnité journalière dès le premier jour d'arrêt de travail et pendant 3 mois pour plus d'un million de cotisants. Dispositif qui, pour lisser les coûts et donc pour exister, se devait d'être commun et obligatoire pour toutes les professions, justifie Michel Picon, le président de l'UNAPL.
C'est parce qu'elle sera obligatoire à tous qu'elle sera accessible aux plus démunis d'entre nous. Sinon, ils ne peuvent pas se la payer et du coup, ils n'ont rien. C'est le principe de la sécurité sociale, enfin, qui guide depuis 1945 la protection sociale des Français, et les professionnels libéraux n'échappent pas à ces fondamentaux qui sont ceux de la solidarité.
Reste à mettre tout le monde d'accord sur le financement. Une nouvelle cotisation sera instaurée, mais avec quel niveau de prestation et avec quel taux? C'est l'assurance de négociation assez vive, estime Grégoire Leclerc de la Fédération des auto-entrepreneurs.
D'un côté, il y a effectivement une partie des auto-entrepreneurs, autour de 180 000, qui demandent à bénéficier des indemnités journalières, qui d'ailleurs payent des cotisations pour ça, et ce depuis longtemps, sans en voir la couleur. Et puis de l'autre, on a des professions libérales réglementées, experts comptables, médecins, qui eux, n'ont pas forcément envie de payer pour ces indemnités journalières. Évidemment, ça va poser des problèmes.
Une fois les négociations terminées, le dispositif entrera en application en juillet l'année prochaine.
Adrien Toffolet pour France Culture. Après de longues heures de négociations cette nuit, les ministres de l'Agriculture de l'Union européenne se sont mis d'accord tôt ce matin sur une nouvelle politique politique agricole commune, une réforme de la PAC. Reste toutefois à savoir dans le texte si les 27 ont bel et bien introduit des réglementations écologiques contraignantes, comme le demandaient les Verts et comme en affichait l'objectif. Le Parlement européen doit maintenant se prononcer d'ici la fin de l'année sur cette nouvelle PAC pour une entrée en vigueur prévue en 2023.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Des manifestations au Nigeria ont basculé dans le chaos hier soir.
Oui, les mobilisations sont rarissimes dans ce pays de plus de 200 millions d'habitants, pays le plus peuplé d'Afrique. Mouvement inédit donc au Nigeria contre les violences policières et la mauvaise gestion du gouvernement. Il dure ce mouvement depuis une dizaine de jours et effectivement, la manifestation d'hier a été durement réprimée par les forces de l'ordre nigériane. Il y aurait, selon Amnesty International, plusieurs morts et de nombreux blessés, Lisa Fabian.
Un drapeau nigérian taché de sang, c'est l'image qui restera à l'issue de cette journée de mardi marquée par la reprise en main des autorités nigérianes. Ces derniers jours, des bandes de casseurs avaient fait leur apparition en marge des rassemblements dans plusieurs villes du pays. Des manifestants ont été grièvement blessés par ces jeunes qualifiés de voyous qui ont aussi incendié plusieurs commissariats. Face à ces violences que les manifestants disent orchestrées par le pouvoir en place, les autorités nigérianes ont pris ce mardi une série de mesures pour ramener le calme dans le pays. Un couvre-feu de 24 heures a notamment été décrété dans la mégalopole de Lagos, qui compte 20 millions d'habitants. Le chef de la police nigériane a annoncé dans la foulée le déploiement de la police anti-émeute sur tout le territoire. Malgré ces annonces, les jeunes manifestants ont poursuivi leur sit-in sur le principal péage de la capitale économique qu'ils occupent depuis plus d'une semaine. Mais à la tombée de la nuit, ils ont été brutalement dispersés par les tirs nourris des forces de sécurité nigérianes qui sont intervenues 2 heures avant le début officiel du couvre-feu.
C'était la correspondante de France Culture au Nigeria, Lisa Fabian. Pas de répression sanglante, mais un mécontentement là aussi. En Bolivie, plusieurs centaines de personnes ont protesté hier contre la victoire du candidat de gauche, Luis Arce, à la présidentielle. C'est une fraude, comme ce qu'a toujours fait son prédécesseur Evo Morales. Voilà ce que lançait par exemple une manifestante. Mais le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué hier des élections pacifiques et il a appelé tous les responsables politiques boliviens à travailler pour la réconciliation nationale. Luis Arce, élu dès le premier tour ce dimanche, a promis un gouvernement d'union nationale. Partons maintenant à Cuba, où les autorités considèrent que l'épidémie de Covid-19 est maîtrisée sur l'île. L'île des Caraïbes va donc rouvrir ses frontières après plus de 7 mois de fermeture aux touristes. Elle en avait bien besoin économiquement, mais seule une partie au nord de l'île est réellement ouverte, Domitil Piron.
Le site balnéaire de Varadero est désormais accessible aux touristes étrangers comme les Cayos, les petites îles bordant Cuba, avec un atterrissage directement sur place, un test PCR à l'arrivée et un séjour dans les hôtels d'État uniquement. Pour le secteur privé cubain, cette réouverture ne change donc rien, tout comme pour la Havane qui devra encore patienter. C'est à pleurer parce que nous vivons du tourisme, explique Miguel dans la rue Obispo, l'une des plus animées de la capitale en temps normal. Mais la vieille Havane a perdu son habituelle musique et les vieilles voitures américaines sont toutes au garage, comme ici, à Nostalgic Car. Nidia Liz Acosta gère avec son mari cette petite entreprise touristique. Ils vivent depuis 7 mois de leurs économies.
Pour l'instant, il n'y a pas de tourisme en ville, qui est celui avec lequel on travaille. Mais nous espérons que d'ici le début de l'année prochaine, tout revienne à la normale. On est certain que ce ne sera pas comme avant le Covid. Il faudra recommencer de zéro comme au début, mais on n'a pas le choix et c'est pour le bien et la santé de tous.
Même si les économies des travailleurs du secteur privé se réduisent comme peau de chagrin, ici tout le monde reconnaît la responsabilité et l'engagement de l'État et de chacun dans la lutte contre le coronavirus. Alors, chez Dador, un petit atelier de couture et magasin de vêtements haut de gamme, principalement pour touristes, les couturières et designers comme Lorraine Fajardo Cardenas se sont lancés dans une gamme de masques de protection.
Pour nous, le fait est que nous ne sommes pas un magasin de première nécessité, qui sont les seuls qui fonctionnent actuellement. Mais nous avons créé un produit de première nécessité.
Ici, le masque est obligatoire partout et tout le temps depuis 7 mois, même pour les touristes qui viendraient s'aventurer sur les plages cubaines.
Domitil Piron à La Havane pour France Culture. Notez aussi que le Venezuela entamera une campagne de vaccination massive contre le Covid-19 entre les mois de décembre et janvier prochain. C'est ce qu'affirmait en tout cas hier soir le président vénézuélien Nicolas Maduro. Il cite des vaccins fournis par la Russie et par la Chine. Cette campagne de vaccination ciblerait en priorité des personnes déjà atteintes d'autres maladies, des adultes majeurs ou encore des enseignants, médecins. médecins et personnel soignant. La météo de ce mercredi en France métropolitaine, avec un temps partiellement couvert selon Météo France, un vent persistant sur l'ensemble du territoire. La tempête Barbara se décale d'ailleurs vers la mer du Nord aujourd'hui, laissant des pluies éparses et de belles éclaircies sur le sud-ouest, avec des températures en hausse. Ce matin, il fait 9 degrés à Strasbourg, 16 à Rennes et à Paris, 17 degrés à Bordeaux et Lyon, 18 à Marseille et déjà 20 degrés ce matin à Biarritz.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal.